l'écriture dans Matthieu au chapitre 7, Matthieu 7 et ensuite dans Jean 15. Mais mon introduction sera dans Matthieu chapitre 7. Alors que vous êtes en train de chercher dans vos Bibles, j'aimerais remercier encore une fois toute l'Église, tous les frères et sœurs qui étaient présents ici dimanche en train de louer Seigneur. On avait plus de 400 personnes qui étaient ici. Et merci Seigneur pour les deux bonnes réunions que l'on a eues, le frère Balsa qui a prêché, le frère Radovan qui ont prêché. Merci Seigneur. Amen. Donc dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père céleste, nous te prions que tu bénisses ta parole. Elle est bénie éternellement, Seigneur, mais bénis-la dans nos cœurs. Bénis-la, Seigneur, dans nos pensées. Bénis-la, Seigneur, dans notre méditation. Bénis-la, Seigneur, afin que nous puissions y trouver, Seigneur, une source d'encouragement, une source d'éducation, une source, Seigneur, pour nous rapprocher plus près de toi encore. C'est notre prière aujourd'hui. Nous ne savons pas quand est-ce que tu reviendras, Seigneur. Mais nous voulons être sûrs que quand nous disons Seigneur, 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 c'est parce que nous sommes dans ta volonté. C'est que nous sommes tes enfants. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs qui sont réunis ensemble ici, dans ce lieu. Oins-nous de ton esprit, nous te demandons cela comme une grâce dans le beau et précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Donc le Seigneur qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22 nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des paroles qui sont surprenantes quand même. Dans notre église, toute l'église n'est pas réunie aujourd'hui, mais on a pas mal de gens qui viennent ici, pas mal de bien-aimés qui sont là. Beaucoup de gens viennent et vont, picorent un petit peu dans toutes les mangeoires qu'il y a dans les alentours. Là où il y a quelque chose qui se passe, ils y vont. Et se sentent bien de faire ça, sans aucune crainte, souvent. Sachez une chose, c'est que nous sommes des apostoliques. Il y a une différence entre cette église et les autres églises. En disant ça, je ne condamne pas les autres églises. Merci Seigneur pour toutes les églises. S'ils prêchent Jésus, gloire à son nom. Mais sachez une chose, c'est qu'ici, c'est différent. On croit en un seul Dieu, on baptise au nom du Seigneur Jésus, on reçoit le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, et on veut que tout le monde reçoive le Saint-Esprit, pas 15% de l'Église seulement. Tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est fort important. On est une Église apostolique parce qu'on se veut du livre des Actes. Nos racines sont dans Actes. Elles ne sont pas à Saint-Louis, nos racines. Elles ne sont pas à Rome, elles sont à Jérusalem. On est les catholiques de Jérusalem. On vient de Jérusalem. Et on veut comparer notre foi avec la foi des premiers chrétiens. Donc je disais, butiner dans les autres assemblées, faire un petit... Il n'y a pas un péché en soi en faisant ça. Ce n'est pas mal parce que vous êtes allé dans une autre assemblée, voir ce qui se passe là-bas, que vous avez péché. Mais la question est celle-ci, c'est pourquoi est-ce que vous allez dans une autre assemblée? Pourquoi faire? Alors quand on va dans une autre assemblée, on se dit, ah ben c'est pas trop mal, ils prêchent Jésus, c'est à peu près comme chez nous, c'est gloire au Seigneur. Vous avez vu ce que Jésus a écrit ici? Ce qu'il dit? Il dit, c'est tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ensuite, il dit au verset 22 et 23, il dit, on viendra le voir en disant « Seigneur, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. » Et Jésus dit, vous savez quoi? Je ne vous connais pas. Maintenant, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit ça. Vous avez lu ça avec moi tout à l'heure. Nous, on doit s'arrêter là-dessus et réfléchir une minute. Si Jésus dit ça, nous, on veut être sûrs que même dans notre église, on n'est pas à côté. Il ne faut pas penser qu'on est à l'aise, tout est impeccable, tout va bien. Parce qu'on est dans l'église pentecôtiste unie, donc on est presque sûr d'être arrivé au ciel. L'église pentecôtiste unie ne peut mettre personne au ciel, et elle peut en retirer personne non plus. C'est chacun d'entre nous qui devons décider si on va aller au ciel ou pas. C'est une histoire très personnelle. Ça dépend de nous. Ça dépend combien on est consacré, combien on veut être sauvé Est-ce qu'on veut réellement être sauvé? Est-ce qu'on veut réellement avoir notre âme qui est sauvée? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a peur? Souvenez-vous du message que je vous ai pressé le 26 août. Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on veut avoir sa peau qui est sauvée? Est-ce qu'on vient ici pour ça? Ou est-ce qu'on veut que notre âme soit sauvée? On a réalisé quelque part que notre âme est éternelle et qu'un jour, elle va rencontrer Jésus, comme tous les êtres humains. Tous rencontreront Jésus. Il n'y a pas une seule personne qui échappera à cette rencontre avec Jésus-Christ. Et pour certains, il dira, je ne vous connais pas. Et pour d'autres, il dira, entrez dans ma demeure. Maintenant, nous, on veut entrer dans ma demeure. Je n'ai pas commencé pour vous, mais c'est deux choses. C'est ou je ne vous connais pas, ou rendre bon et fidèle serviteur. Donc, ça ne dépend pas de l'Église, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des gens qui viennent dans l'Église, ça ne dépend pas de qui nous a offensés ou pas, ça dépend de combien nous, on veut aller au ciel. Quel est le prix qu'on est prêt à payer pour aller au ciel? Alors, je sais que le prix ultime a été payé. Jésus a donné son sang, il a donné sa vie. Il nous a donné son esprit pour qu'on y arrive, mais quel est le prix que nous, on va payer pour aller au ciel? Alors, chacun d'entre nous, on apporte notre dîme, nos offrandes, on fait des sacrifices, on ne parle pas de ça. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Mais quel est le prix que l'on va payer, nous, dans notre personne, dans notre vie personnelle, pour être sauvés? Alors, j'aimerais vous emmener dans Jean, au chapitre 15. Et là, il y a une portion d'écriture que vous connaissez tous. Il y a cette allusion de Jésus qui nous parle. Il dit « Je suis le cep » et il décrit quel cep. Alors, Sornovac et moi, on a été justement pour la première fois dans notre vie dans les vignobles de Bordeaux. C'est absolument étonnant que je suis né en France. J'ai été élevé une partie de ma vie en France. J'ai jamais vu un vignoble encore. Enfin, j'ai vu des vignobles de l'autoroute à droite et à gauche, mais enfin, je ne suis jamais passé dedans. Mais c'est extrêmement beau à voir ça. Si jamais vous avez l'occasion de faire un petit tour dans le Bordelais, rien que pour voir, ça c'est extraordinaire. Après, vous pouvez vous imaginer de ce que Jésus parle. Parce qu'à leur époque, il ne parlait pas de tournesol, il ne parlait pas de maïs, il ne parlait pas de blé. Il parlait de cep. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et quand vous voyez un vignoble, vous pouvez vous imaginer de ce qu'il est en train de dire. Un cep, c'est le tronc d'arbre qui semblerait être assez desséché. Et bien sûr, les vignes dans le Bordelais sont toutes taillées, donc elles ont une certaine forme, elles sont toutes belles, parce que si on ne la taille pas, elles s'en vont dans tous les sens. Donc elles ont une certaine hauteur, à peu près un mètre de haut. C'est très vert, et puis vous avez toutes ces grappes de raisins qui pendent là. Bientôt, ils vont faire les vendanges pour faire du vin. Et c'est très, très joli à voir, ça. Et quand vous pensez que Jésus dit, il dit, vous êtes les branches. Il dit, mais moi, je suis le vrai cep. Alors, je peux m'imaginer maintenant, en passant par le Bordelais, là-bas, que Jésus était là avec ses disciples, il passait par une vigne, quelque part, il s'est arrêté, puis il leur a montré, certainement, parce que Jésus a fait beaucoup de leçons de choses. Et il leur a montré quelque chose, il leur indique maintenant quelque chose qui est important. Alors, quand vous regardez encore une fois sur la vigne, elle est bien sûr toute verte, les feuilles sont très belles, elles sont... Et comme c'est taillé, bien sûr, tout est très joli. Et puis ensuite, vous avez ces grappes de raisins qui sont tout en dessous, qui pendent. Là, en l'occurrence, ce que j'ai vu en passant en voiture, c'était des grappes de raisins qui étaient noires. Donc, je suppose que le vin qu'ils allaient faire là-bas, il serait du vin rouge. Mais enfin, ça, je ne sais pas. C'est peut-être pas réel, ça. Ils en font peut-être du blanc avec ça aussi, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des fruits qui sont là. Et il y a beaucoup de fruits qui sont là. Il y a plein de fruits qui sont là. Alors, je ne suis pas arrêté pour regarder et regarder la maturité. J'aurais bien voulu voir un viticulteur pour faire une leçon un petit peu, mais je regarde plutôt sur le viticulteur céleste de sa leçon. Il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Alors, je peux imaginer un petit peu la scène qu'il y a là. Et ensuite, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, en parlant du vigneron, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Effectivement, quand vous regardez une vigne qui est devenue sauvage, les branches vont dans tous les sens. Parce que l'arbre est fait ainsi, ou est-ce que s'il n'est pas taillé, les branches s'en vont partout. Et éventuellement, quand les branches poussent partout, il y aura très peu de fruits. Pourquoi ? Parce que toute la sève s'en va dans les branches. L'arbre est plutôt occupé à faire des branches et des feuilles plutôt qu'à se concentrer à faire du fruit. L'analogie que nous avons ici, c'est que Jésus-Christ nous dit que nous qui sommes greffés dans le cep, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, tout d'abord, il est retranché. Ça doit nous poser une question tout de suite. Si moi, en tant qu'individu, en tant que chrétien, je ne porte pas de fruits, je risque d'être tranché. Je risque d'être coupé et mis de côté. Et tout sarment qui porte du fruit, il est émondé. Alors, s'il y a une branche d'arbre, il appelle ça un sarment, s'il y a une branche d'arbre qui semble avoir du fruit, qu'est-ce qui se passe ? Le vigneron vient et il commence à couper cette branche-là. C'est-à-dire tout ce qui est en deçà, en plus du fruit, là, s'il y a, il y a la branche qui est là, il y a un petit peu de fruit là, et la branche commence à pousser là-bas, et le vigneron vient et il coupe la branche pour que toute la sève vienne dans le fruit. Pour pas qu'elle aille dans la branche et faire des feuilles et puis s'allonger à perte de vue sur 1 ou 2 mètres là-bas. Non, elle est coupée là pour que cette branche porte du fruit. Donc la question que nous nous posons, puisque c'est le Seigneur Jésus nous parle de ça, il nous est dit que si on porte du fruit, on commence à porter du fruit, il va nous émonder. Je ne sais pas, je n'ai pas posé la question à la vigne, et si j'avais posé une question à la vigne, je ne sais pas si elle m'aurait répondu, mais je ne pense pas que c'est très gai d'être émondé. Vous ne vous rendez pas compte ? Un coup de sécateur, couper une branche, bien sûr, nous, on le fait sans y penser 2 minutes, mais la plante est vivante, elle ne crie pas, elle ne dit pas aïe ouïe, mais coupez-vous un petit peu, vous allez voir si ça fait du bien. Ça fait mal. Donc je suppose que l'arbre aussi a une certaine souffrance qui est là, une souffrance végétale certainement, mais quelque chose se passe dans l'arbre, est-ce qu'il est coupé, il est émondé, mais il est émondé dans un seul but, pour porter encore plus de fruits. Il a du fruit, mais Dieu, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il veut plus de fruits. Maintenant, il dit quelque chose d'autre. Il dit... Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. À chacun d'entre nous, le Seigneur s'adresse et... La petite étude que je vais faire avec vous aussi, c'est quel genre de fruit est-ce que l'on porte aujourd'hui ? Quel est notre fruit ? Alors dans l'église, vous entendez votre pasteur vous donner quelquefois une certaine liste de faire et ne pas faire. Mais quelquefois je me demande si c'est vraiment pris au sérieux ou si simplement c'est pris comme une rhétorique en se disant ben, il faut bien qu'il prêche quelque chose, donc il le dit, il se soulage son cœur et puis après ça va mieux. Moi, je ne suis pas là pour me soulager mon cœur. Moi, je suis là pour vous enseigner ce que la Bible dit. Parce que il y a un résultat à la fin de tout ça. C'est la vie éternelle. Moi, je ne viens pas à l'église pour prêcher parce que je suis stressé, j'en peux plus, et je viens ici et je décompresse. Je ne viens pas décompresser derrière le pupitre. Si je dois venir derrière le pupitre pour décompresser, j'ai besoin de me faire soigner. Non, non, on ne vient pas derrière un pupitre pour décompresser. On vient derrière un pupitre pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher de toi ? Seigneur, je veux la vie éternelle. Et moi, en tant qu'église, je veux arriver au ciel. J'ai marché trop longtemps avec Jésus-Christ pour maintenant abaisser les bras. Et peu importe votre âge, vous avez marché trop longtemps avec Christ pour arrêter maintenant. Parce que si Jésus revient demain, le plus important, c'est ce que vous aurez fait avec votre vie aujourd'hui. Parce que Jésus nous dit au travers de ses disciples, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, Bien sûr, il y a toujours l'excuse en disant, mais ils sont vieux, nous on est jeunes, c'est notre époque, c'est notre temps, et etc. Vous savez quoi, chacun d'entre nous, qui sommes peut-être un peu plus âgés, on est passé par ce moment où est-ce que les aînés, quand ils nous disaient quelque chose, on s'est dit, ouais, mais eux sont vieux, nous on est jeunes, et on fait comme ça. Mais en réalité, quand on regarde aujourd'hui, à mon âge, les aînés, on s'aperçoit une chose, c'est que tout ce qu'ils disaient, ils avaient raison. Et ils ne s'étaient pas trompés dans rien du tout. C'est dommage qu'on ne les a pas plus écoutés encore. Ça nous aurait évité des soucis, des fautes, des péchés. Ça nous aurait évité des rancœurs. Ça nous aurait évité des moments de profonde repentance, des moments de doute si Dieu allait ou non nous pardonner. Si simplement on les avait écoutés un petit peu les anciens, on ne serait pas passé par les difficultés par lesquelles on est passé. Alors, quand on est un peu plus jeune, c'est sûr que quelquefois, quand on entend une personne qui est un petit peu plus âgée parler, on se dit, bah, ils ne sont peut-être pas à la page ou peut-être ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais sachez une chose, c'est quand il s'agit peut-être des choses modernes dans lesquelles on est, il y a peut-être des choses desquelles on ne sait pas exactement de quoi on parle. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu et de Jésus et du salut et du ciel et de l'enfer, on sait exactement de quoi on parle. Et quand on regarde ce qu'il se passe dans le monde, on sait exactement ce que l'on voit et on voit exactement ce que fait Satan pour séduire le monde. La Bible nous dit que Satan sait que son heure est venue et il vient avec une grande colère sur la terre pour séduire le monde. Comment est-ce qu'il séduit le monde ? Dites-moi un petit peu, comment est-ce qu'il séduit le monde ? Alors, il séduit le monde de plusieurs manières. Tout dépend où est-ce que vous trouvez sur l'hémisphère. Si vous êtes dans certains pays, certaines contrées, il va vous séduire avec ce qui se passe dans ces pays. Pour ceux comme nous qui sommes dans l'hémisphère nord et nous sommes dans les pays soi-disant développés, où est-ce que l'on met une vie qui est agréable encore, il vient nous séduire dans ces pays-là d'une autre manière. Et sachez qu'il est en train de séduire les hommes et les femmes et il est en train de les tromper. Il essaie de tromper la jeunesse au maximum pour essayer d'emmener le plus possible de personnes avec lui en enfer. Lui, il est intéressé par une seule chose, c'est combien de gens peuvent mourir littéralement, c'est-à-dire passer par la mort et être enterrés sans entendre parler de Jésus-Christ, sans pouvoir se repentir. Son intérêt est la mort. Voilà pourquoi il est un destructeur. Tous ceux qui suivent Satan sont des destructeurs. Tous les gens qui détruisent la vie aujourd'hui sont des fils de Satan ou des filles de Satan. Parce que Satan est ce Zabulon qui détruit la vie. Il haït les hommes. Il haït tout ce qui est vivant. Donc soyons sûrs que nous, de notre côté, nous réalisons qu'il y a un ennemi dans le monde. Tout ce qu'il cherche, c'est la mort. Et il utilise plusieurs moyens. Il peut utiliser des moyens religieux et il peut utiliser des moyens qui sont modernes. On peut avoir des situations, et elles sont toutes autour de nous, dans notre ville certainement, à Paris, c'est sûr, où est-ce que des gens ne savent pas comment se défouler et ils pensent bien vivre en allant passer une soirée en se saoulant, en faisant la queue dans une boîte de nuit et se pervertissant de toute façon, de toutes les manières, sensuelles, dans la drogue, dans l'alcool et dans les choses les plus abominables qu'il y a. Ils sont séduits et la seule chose que Satan veut faire, c'est qu'éventuellement un d'entre eux meurt là. Et il échappe à la vie éternelle en Jésus-Christ. Chacun d'entre nous sommes des cibles potentielles. Si on l'écoute, si on le suit, si on se laisse amadouer par ses façons de faire, on dégringole tout doucement. Quand dans l'Église, on prêche sur la sainteté et la pureté, la sainteté et la pureté n'incluent pas simplement les vieux dans l'Église. La sainteté et la pureté incluent tous les chrétiens dans l'Église. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez que ma mère, qui a 84 ans, qui n'est pas sûre de son lendemain, elle n'est pas sûre combien de temps elle va vivre, elle est vivante aujourd'hui, mais on ne sait jamais, la sœur Rose Blasiac, qui vient d'être enterrée dans le nord de la France, qui était, alors elle est une illustre inconnue pour nous, mais c'est une grande femme de Dieu. Elle a servi le Seigneur dans le nord de la France quand moi j'étais jeune. Elle est décédée à 92 ans. Dimanche dernier, elle s'est couchée dans son lit, elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle a pris son petit déjeuner, elle est partie dans son lit parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait dit à son fils la veille, tu sais quoi, peut-être demain je ne vais pas aller à l'église. Et quand elle est repartie vers 9 heures dans son lit, elle s'est endormie et est partie avec le Seigneur. Donc, personne n'est sûr de son lendemain, surtout quand on est plus âgé. Donc, je vous parlais de maman. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, bien sûr, elle peut tomber dans le péché, ça c'est clair, tout le monde peut. Mais elle a une chose en tête simplement, c'est que sa vie, elle veut qu'elle soit pure, sainte, elle veut voir Jésus. Elle a marché trop longtemps avec Jésus pour rater le coche maintenant. Mais ça, on se dit, nous, bah oui, elle a 84 ans, donc bien sûr, c'est fort possible que ça arrivera certainement un jour. Vous savez quoi? Ruben a 17 ans. Pardon? 14 ans. Et il est venu tout près de Madame la mort. Il n'est pas sorti encore. Mamie, elle est toujours à l'église. Lui, il n'y est pas à l'église en ce moment. Donc, il faut faire attention que Satan ne vient pas nous séduire. Ah, ils sont vieux, donc il faut qu'ils soient saints. Mais lui, il est jeune, donc ça va. Non. Chacun d'entre nous, on doit vivre dans la vie de sainteté. Jeune ou moins jeune. Il faut qu'on soit pur. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Il n'y a pas des péchés de jeunesse que le Seigneur va dire « Ok, il était jeune, il faut le comprendre. C'était son insouciance, il n'a pas fait exprès. » Ce n'est pas vrai, ça. Chacun d'entre eux, nous qui sommes ici, jeunes ou moins jeunes, on sait quand on fait bien et on sait quand on ne fait pas bien. Personne ici ne fait pas bien et il se pose la question « Tiens, je me demande si je n'ai pas bien fait. » Personne. Quand on ne fait pas bien, on le sait. Quand on ne dit pas bien, on le sait. Quand on ne pense pas bien, on le sait. Quand on ne regarde pas bien, on le sait. Quand on n'écoute pas bien, on le sait. Peu importe l'âge, on le sait. Donc on ne peut pas dire au pasteur qu'il faudrait que j'ai un rendez-vous parce que avec vous pour vous demander si je peux faire ça. Si vous voulez un rendez-vous pour me demander si vous pouvez faire ça, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous attendez? Que moi je vous dise non? Alors prenez le rendez-vous s'il vous plaît. Mais en réalité, vous savez exactement si vous pouvez ou pas le faire, le dire, aller là-bas. Donc chacun d'entre nous, on a une conscience. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que si cette conscience est ternie par en disant « Oh, ben, Dieu comprendra », et si on fait une chose une fois, on sera capable de la faire une deuxième fois avec moins d'anticipation que Dieu nous jugera parce qu'on dit « Bah, regarde, j'ai fait ça ». Et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête, donc je peux le refaire, Dieu comprendra. Et tout doucement, on est séduit. Ça s'appelle la séduction, ça. Et on est un petit peu endormi, c'est comme si Satan nous donnait une petite injection de somnifère, et on s'endort tout doucement au péché, et on fait des mauvaises choses. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que l'on fait, ce que l'on dit. Il faut que vous fassiez attention, jeunes, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ce que vous faites sur Facebook. Faites fort attention, protégez-vous. Gardez-vous. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre vie privée au monde. Ce n'est pas de la peine. Parce qu'un jour, vous direz, ah, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi le faire? Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention. Faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites. J'ai en train de penser un petit peu à ce scandale qui est courant en ce moment en France, ici, avec ce qui s'est passé avec la famille royale d'Angleterre. C'est absolument abominable ce qui se passe pour ces gens-là. Et ces gens n'ont même pas un moment de privé, où est-ce qu'ils peuvent être privés, où est-ce que leurs images sont exposées au monde entier, des choses qui sont viles, qui ne sont pas bien, et qu'est-ce que l'on fait? Et souvent, on a des chrétiens qui se trouvent dans la même situation, où est-ce qu'ils exposent leur vie privée? Qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, si vous mangez des frites et des carottes, ou que vous allez faire la lessive? Et alors, tout le monde fait la lessive, tout le monde mange des frites. Vous avez mal au ventre, et moi aussi j'ai mal au ventre. Mais je ne vais pas le dire sur Facebook quand j'ai mal au ventre. Mais ça regarde qui? Non, mais je vous donne des exemples ici qui sont un petit peu marrants, mais quand vous regardez bien avec certains reculs, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui force les gens à faire ça? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à faire ça? Oh, mais c'est les jeunes, c'est la jeunesse, on le fait, il n'y a rien de mal. Quand on regarde certaines photos de nos jeunes sur Facebook, mais vous vous demandez, est-ce que ce sont des photos de nos jeunes chrétiens ou est-ce que ce sont des photos qui sortent d'un magazine de provocation? On veut provoquer qui, là? On veut provoquer les garçons quand on est une fille? Ou on veut provoquer les filles quand on est un garçon? Et on se dit chrétien rempli du Saint-Esprit? Il faut faire attention, là. Il faut faire fort attention. Après, il nous arrive un pépin. On dit, oh, j'ai un problème, j'y arrive pas. On est un petit peu dans la déprime. On n'y arrive pas. Vous avez lu ce que le Seigneur nous a dit? Quand une branche ne porte pas de fruits, Dieu la coupe. Dieu la coupe. Alors maintenant, je ne dis pas que le Seigneur est en train de nous couper tous ici en ce moment, mais il faut savoir une chose, c'est que si le Seigneur voit qu'il y a du fruit potentiel en nous, il va nous émonder. S'il y a un potentiel fruit en vous, et il y en a, vous êtes tous remplis du Saint-Esprit, il y a le potentiel fruit en vous, il va vous émonder. Vous allez passer par des épreuves. Un coup de sécateur, j'ai jamais vu une vigne qui est en train de rigoler tout haut quand elle a été... elle est passée au sécateur. On ne peut pas l'entendre. Mais je vous garantis que si le monde végétal pouvait s'exprimer, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui se passe. L'arbre est endommagé. La branche est endommagée. Mais c'est fait dans un seul but, pour porter plus de fruits. Donc si vous passez par une expérience qui semblerait être une expérience de souffrance, peut-être, peut-être que vous devriez tout de suite dire, Seigneur, qu'est-ce que tu cherches en moi? Est-ce que tu veux que je porte plus de fruits? Dans Luc au chapitre 6 et au verset 43, Jésus nous dit ceci, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelquefois on n'a pas les bénédictions escomptées, promises par le Seigneur, il nous faut faire un rapide tour d'horizon dans notre vie et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas? Est-ce que quelque part dans ma vie privée, dans ma vie de chrétien, de chrétienne, est-ce que je fais quelque chose qui t'offense, Seigneur? Est-ce que je fais des choses qui sont contraires à toi, Seigneur? Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Souvenez-vous, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Si vous voulez porter du bon fruit, il faut que vous soyez un bon arbre. Et Jésus est le cep, et on veut être greffé en lui. Jacques 3, 11 nous dit ceci, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» En paraphrasant, est-ce que nous, chrétiens, on peut louer le Seigneur le dimanche, danser dans l'église, nous réjouir le dimanche, et lundi, être au même niveau que le monde, agir comme le monde, ressembler au monde, parler comme le monde? On ne peut pas. Il ne peut pas y avoir deux sources en nous. S'il y a deux sources en nous, quelque part on est menti. Quelque part on a été séduit. Et on est plutôt sur la dominance du malin plutôt que sous la bénédiction du Seigneur. Donc quand Jacques nous écrit ceci, il dit « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ?» Ou une vigne des figues, de l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Donc il faut savoir une chose, c'est que vous et moi, il doit y avoir du bon fruit en nous. Et on doit regarder à ce qu'on porte du bon fruit tous les jours. Ce n'est pas simplement quand on est ensemble, mais tous les jours, Seigneur, donne-moi de porter du bon fruit. On doit être conscient de cela. Et on va être éprouvé, on va être mis au défi. Il va y avoir des situations où est-ce que on sera défié sur certaines choses. Et les défis ne viennent pas automatiquement du monde. On peut être défié entre nous. Quelqu'un dans l'église peut nous dire quelque chose. Un responsable qui est au-dessus de nous peut nous dire quelque chose si on est dans une équipe. Et on pourrait trouver un objet d'offense dans notre vie qui semblerait être comme quelque chose qui nous ferait du mal. Mais c'est à nous d'être mûrs et dire, Seigneur, moi je vais porter du bon fruit. Même s'il me semble que ce que j'ai entendu ici n'est pas encourageant, n'est pas quelque chose qui est dans le bon sens, c'est ce que j'ai compris. Alors, une autre chose que j'ai remarqué, moi, c'est que souvent, on ne se comprend pas dans nos communications. Quelquefois, une chose est dite, il y a une personne qui comprend une chose, il y a une autre personne qui comprend autre chose. Souvent, dans les prédications, il y a des choses qui sont dites depuis le pupitre, et vous posez une question à quelqu'un, ou quelqu'un vient voir et dit, mais vous avez dit ça dans la prédication. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous avez compris, mais je n'ai pas dit ça. Donc, la communication est fort importante. Et qu'on comprenne la communication. Alors bien sûr, on parle tous en français ici, et on essaie d'être le plus explicite possible pour bien comprendre, mais il est possible que dans une certaine situation, quelquefois, on ne comprend pas exactement l'intonation, la raison pour laquelle la chose a été dite, pourquoi on a fait une telle chose, et quelquefois ça amène une compréhension où est-ce qu'on peut être frustré, on peut être découragé, et certaines personnes abandonnent, ils disent « Oh, ben, je ne vais plus dans l'église, parce que dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. » Alors on met toute l'église dans un sac en disant qu'il n'y a pas d'amour parce qu'une personne nous a dit quelque chose que l'on n'a peut-être pas bien compris et qu'on l'a pris de travers et on a mis tout le monde au même rang. Et on s'est mis, nous, dehors. Ça s'appelle de la séduction. Ça s'appelle aussi de la séduction et du manque de vigilance. On ne peut pas se laisser offenser par un frère ou une sœur et rater le ciel à cause de cela. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas aller dans l'église, je vais prendre un petit peu de recul pendant quelque temps. Vous savez que celui qui recule de l'église, il est perdu. Sortez en dehors de l'ombrelle de la protection de l'église et vous êtes tout seul là-bas. Vous devenez une cible là-bas. Et quand vous allez butiner à droite, à gauche, régulièrement, je ne parle pas de la visite occasionnelle, je parle de temps en temps faire un tour parce qu'on voit des gens, on ne les voit pas avant 6 mois, puis paf, on les revient. Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Si, je suis là. Quand est-ce que vous étiez là la dernière fois? J'étais là il y a quelques dizaines d'années. Hein. Il faut faire attention. Quand on est en dehors de la protection du Seigneur, de la protection de l'Église, on ne sait pas ça. Ni vous ni moi, on ne s'en rend pas compte. Mais on est tous ici sous la protection de l'Église. À chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, on vient volontairement ici. On vient volontairement pour apprendre la parole de Dieu. Et on veut volontairement dire, Seigneur Jésus, je veux porter du fruit. Dans Luc au chapitre 16, Dieu est à la recherche du fruit. On a lu ça dans Jean 15, mais dans 16, il y a encore cette parabole qui nous est donnée. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, et il en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le ! Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Et le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-moi encore cette année, je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fumier, sinon on le coupera. S'il y a un exemple de la patience de Dieu, peut-être que le Seigneur a voulu nous couper une fois en disant, mais l'amour de Christ, la croix, il ne nous a pas coupé encore. On est revenu une fois de plus à l'église, on a entendu un message prêché. On a entendu un deuxième message pressé. Et quelque part, on a été interpellé. On dit, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai mal fait. J'allais presque faire une grave erreur. Vous savez quoi? On ne sait pas dans quel état on est exactement. Et voilà pourquoi il nous est nécessaire de regarder dans nos branches et regarder dans notre vie, est-ce que l'on porte du fruit pour Dieu? Est-ce que l'on est des hommes et des femmes qui portons du fruit? Et vous allez dire, mais quel genre de fruit? Qu'est-ce que l'on doit porter comme fruit? Quel est le fruit que Dieu cherche? Et rapidement, j'aimerais vous dire dans 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'un des fruits que Dieu recherche dans votre vie et ma vie, c'est qu'on lui obéisse. C'est l'obéissance. Qu'on obéisse au Seigneur simplement. Même quand on ne comprend pas. Même quand on n'arrive pas à trouver une explication rationnelle à quelque chose. Alors aujourd'hui, chacun d'entre vous, mes jeunes frères qui sont là, et puis les étudiants qui sont dans les études un petit peu plus poussées, vous êtes passés par l'université, vous êtes passés par d'autres études. On nous a appris à l'école à questionner tout ce qu'on nous présente. Et si l'idée ne vient pas d'une suite rationnelle d'événements, on met tout de suite en doute. On devient très scientifique. La science peut déclarer quelque chose, mais si dans la science, on ne reproduit pas 2 ou 3 fois une expérience, on doute très fort si elle est vraie. Voilà pourquoi les gens doutent les miracles. Quand Dieu guérit quelqu'un, on ne peut pas l'expliquer d'une manière rationnelle et on ne peut pas la reproduire 2 ou 3 fois de suite. Donc, on n'est pas sûr. On se dit, c'est un phénomène. C'est pas... Et quelquefois, on est comme ça dans notre vie chrétienne. On a été éduqué par des gens qui nous ont appris à rationaliser les choses, à expliquer les choses, à trouver une solution. Donc, on vient dans l'église souvent et on pose des questions qui sont très directes et on dit, ce que vous dites là n'a pas vraiment de sens. Ou vous ne pouvez pas l'expliquer clairement. On est dans un monde, par exemple, et je vais prendre un exemple simplement pour nous, où est-ce que le mélange des habits entre hommes et femmes est de plus en plus flagrant. Il y a un changement qui se fait, qui est là, où est-ce que l'on n'arrive pas à discerner quelquefois le sexe féminin du sexe masculin. Et quelquefois, on se dit, mais dans la Bible, ce n'est pas écrit qu'une femme doit porter une robe. et à un homme de porter un pantalon. Et vous avez raison, ce n'est pas écrit nulle part, ça. Parce que Dieu est beaucoup plus malin que nous. Dieu est éternel. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'a ni commencement ni fin. Donc, lui est au courant de toutes les modes. Voilà pourquoi il dit dans sa parole qu'il veut une distinction entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas que l'homme ou la femme porte les habits du sexe opposé. Il ne parle pas de robe, il ne parle pas de jupe ou de pantalon maintenant. Donc nous, on doit revenir maintenant dans notre monde à nous. Et qu'est-ce qui distingue encore dans notre monde le sexe féminin du sexe masculin? Il y a un style vestimentaire qui est là. Donc nous, tant que l'on est dans notre monde, il va falloir qu'on soit modeste dans les choses que l'on fait. Le mot modeste est fort important. Parce que dans le mot modeste, c'est des choses qui n'exposent pas mon corps, des choses qui représentent Christ. Je vais m'habiller d'une manière qui représente Christ. C'est-à-dire que quand on me voit, on ne va pas automatiquement me convoiter. On ne va pas me regarder comme un objet. On ne va pas me désirer. Alors, n'importe qui peut désirer n'importe qui. Je comprends ça. Mais je vais essayer de me comporter, si je suis un garçon ou une fille, d'une telle manière que je ne serai pas l'objet d'une convoitise. Si, alors, pour les filles, si une fille vient habillée d'une manière provocante, avec des jupes qui sont très courtes ou très fendues, avec un décolleté qui est plongeant, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, la poitrine est quelque chose qui est un objet sexuel pour les Français. Alors, c'est peut-être pas en Afrique, mais ici, oui. Donc, si vous venez avec un décolleté où est-ce qu'on voit votre nombril, on a un problème. Je m'excuse d'être cru, mais au moins, vous comprenez. On a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit se cacher la poitrine quand on est une femme. C'est aussi simple que ça. On monte au maximum. Où est-ce qu'on se cache? On met une jupe où est-ce que ça ne se craque pas de tous les côtés? Mais pensez bien, mais on veut porter du fruit maintenant. Donc ça, c'est déjà un des fruits que l'on porte, notre habit. Les garçons, c'est pareil. Les garçons ne peuvent pas venir ici en exposant toute leur fourrure qui est là. Montrer qu'ils sont des machos, qu'ils sont bien costauds. On ne fait pas des choses comme ça. Ben, vous direz, c'est naturel, c'est la nature. Oui, c'est naturel, mais quel est le but de tout ça? Quelle est la fin de tout ça? Est-ce qu'on vient pour provoquer quelqu'un? Est-ce qu'on vient pour... On n'est pas là pour provoquer l'un l'autre. Si on doit se provoquer, c'est à adorer Christ, pas à convoiter. Il ne faut pas que quelqu'un soit assis dans l'église, il a vu une fille qui est extrêmement jolie, il dit « Waouh, oui, là, là !» Il n'arrive pas à prier. Tout ce qu'il pense, c'est à la fille. Il n'arrive pas à prier. Dites-moi, quel genre de fruit on porte? Certainement pas à la gloire de Dieu. Et c'est pareil avec la fille qui regarde un garçon qui est habillé d'une manière provocante, peut-être un pantalon qui lui colle partout. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il ne faut pas voir? Donc il faut faire attention. Alors je vous ai donné ici un exemple, mais c'est dans la vie, sur toutes les choses. C'est pareil dans la rue là-bas après. Vous ne voulez pas être dans le métro, dans le bus, ou est-ce que quelqu'un regarde sur vous qui est rempli du Saint-Esprit et que l'on vous convoite parce que vous êtes provocant dans ce que vous faites? De la même manière, dans la manière où on agit, où on parle, dans notre vie au quotidien. Alors je sais très bien qu'on ne peut pas, on n'est pas des papes, on n'est pas déguisés constamment avec notre tiare et puis tout le monde voit que l'on est on n'agit pas comme ça. On est des chrétiens, mais dans notre vie, il faut faire attention à ce que l'on fait. Il faut faire attention à nos réactions aussi, comment on réagit. Parce qu'on est des chrétiens, on veut porter du fruit digne de Christ. Donc, savoir une chose, c'est que si nous sommes greffés, et je vais rapidement terminer ici, si nous sommes greffés au cep, il va sortir de ce cep de la sève, mais ce n'est pas n'importe quelle sève. Le cep, c'est Jésus. Donc nous voulons être sûrs que la sève qui sort de Jésus-Christ soit son esprit. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, dans Apocalypse, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. L'eau que l'on veut boire, la sève que l'on veut, c'est la sève de Jésus-Christ. On veut son esprit. On veut son esprit. Voilà pourquoi on doit prier dans le Saint-Esprit. Quand on est dans l'église, c'est peut-être plus facile. Priez jusqu'à ce que vous soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. priez en langue. La Bible nous dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Vous puisez aux sources de la vie. Les branches, deuxièmement, qui ne produisent pas de fruits, sont enlevées. Elles sont enlevées. On veut être sûr que dans notre vie, il n'y ait pas un surpeuplement de branches. Il y a plein de choses, on fait plein de choses, mais il n'y a pas de fruits nulle part. Seigneur, on veut porter du fruit à la gloire de ton nom. La nature de notre fruit, la nature de notre fruit doit être une nature sainte. Dans Galates 5, dans Romains plutôt, 6, 22, il nous est dit ici, « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Notre fruit doit être saint. Vous, mes sœurs, vous, mes frères, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, il faut qu'on soit saint. Ça, on doit être conscient de ça, on doit y penser. Seigneur, est-ce que je suis saint? Comment est-ce que j'apparais à tes yeux, Seigneur? Est-ce que je te représente, Seigneur? On doit être conscient de cela. On doit représenter le Seigneur. Et la sainteté, c'est un fruit. Romains 6, 22. Les branches qui ne produisent pas de fruits sont émondées. Mais une branche qui produit du fruit, le fruit que vous et moi, on doit produire, c'est la patience, la bonté. Nous, en tant que chrétiens, on doit être bons les uns vis-à-vis des autres. Ne faisons pas de mal à notre frère ou à notre sœur. Aucun mal. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce que l'on fait, dans nos plaisanteries, dans ce que l'on dit. Faisons attention de ne pas nous picorer l'un l'autre. On peut se piquer avec des paroles. On peut se piquer en faisant des allusions sur des choses qui quelquefois ne sont pas là. Et quelquefois, on ne s'aperçoit pas comment on peut faire mal à quelqu'un dans son cœur. Et ces personnes ont du mal après avec elles-mêmes. On doit faire attention, on doit être bon. Et si vous avez envie de piquer quelqu'un, mordez-vous la langue. Il vaut mieux que vous soyez vous blessé que de blesser quelqu'un d'autre. Ne faites pas de mal à votre frère, votre sœur. Soyez bon. Un autre fruit de l'esprit, c'est la joie. Un chrétien, il doit être toujours joyeux. Il n'y a pas de raison de ne pas être joyeux. Vous ne vous rendez pas compte, notre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus revient, c'est pour nous qu'il revient. S'il vient maintenant, il nous emmène. Si on devait partir avant son retour et que l'on doit décéder, et on s'en va dans sa félicité, c'est dans ses bras que l'on est récupéré, on doit être joyeux. La paix, un chrétien doit être en paix. On ne peut pas se soucier du matin au soir. Un vrai chrétien ne devrait pas avoir d'ulcère. Alors, si vous avez un ulcère, je ne vous dis pas ça parce que vous n'êtes pas un vrai chrétien, ok? Je prie que le Seigneur vous guérisse là. Mais quelquefois, on attrape des ulcères parce qu'on se fait tellement de mourons. On se soucie tellement que finalement, ça nous tape sur le système. Notre corps devient malade. Un chrétien doit avoir la paix. Un chrétien doit être patient, bienveillant. Il doit être rempli de foi. La foi, c'est-à-dire qu'il regarde vers Jésus. Et on a eu un bon exemple avec le frère Brian Norman qui nous a montré un petit peu la montagne et puis Dieu qui est là. On regarde vers la montagne souvent, mais nous on doit regarder au-dessus de la montagne. On doit regarder au-dessus de ce qui est du géant plutôt qui est en face de nous. On doit regarder vers le Seigneur. Amen. Et finalement, la condition de l'abondance du fruit, c'est que celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Tout ce que nous amassons, c'est pour la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous savez quoi, frères et sœurs, chacun d'entre vous, jeunes et moins jeunes, on a tous ici dans l'église. Nous sommes en train de combattre un combat. Et chacun d'entre vous, vous avez des situations familiales, des situations particulières qui sont... Il n'y a personne qui a la même situation. Mais on doit prier l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et ne dites pas à un frère ou une sœur, « Ah, mais pour moi, c'est pire que toi. » Comment vous savez? Ne dites jamais ça à quelqu'un. Si quelqu'un a des soucis... C'est le pire de tous les soucis qu'il a. Et quand vous avez des soucis, c'est le pire de tous les soucis que vous avez. Simplement, acceptez, dites, priez pour moi. Et ne comparez pas les soucis. Mais plutôt dites, c'est un fardeau, on prie les uns pour les autres. La charge que l'on porte, elle est la même, chacun d'entre nous. On doit lutter dans la vie contre le péché. On doit lutter contre certaines situations que l'on a. Mais avec l'aide du Seigneur, on lève nos yeux vers le Seigneur. Et en nous levant dans Colossiens 1, 10, il nous est dit que nous devons marcher dignes du Seigneur pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Toutes sortes de bonnes œuvres. Le fruit que l'on porte, souvenez-vous, est un fruit de sainteté. Un fruit de sainteté. Et vous, mes frères et sœurs, Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de picorer un petit peu dans toutes les églises. Quand vous regardez toutes les autres églises qui n'ont peut-être pas le même enseignement que vous avez, où est-ce que l'on ne parle pas de la sainteté comme vous avez entendu parler tout à l'heure? Il y a des pasteurs qui disent, moi je ne pourrais jamais dire ça dans mon église. Si je disais une telle chose dans mon église, la moitié des gens s'en vont. Il faut se poser une question alors. Est-ce que ces gens sont sauvés? On revient à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean. Pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur seront sauvés. Mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Et Jésus dit, c'est quoi? Arrière de moi, je ne vous connais pas. Donc, il faut savoir qu'il y a un sacrifice à payer. On est les gens du peuple du nom de Jésus. On ne veut pas blâmer les autres. Prions pour que le Seigneur donne un réveil du nom de Jésus. Mais nous, on est responsable pour nous. On est responsable pour ce que l'on sait. Et on doit être déterminé de porter du fruit. Donc la question de cette étude était, quel fruit est-ce que l'on produit aujourd'hui? Seigneur, nous voulons porter du bon fruit. Seigneur, nous voulons porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, je veux te prier pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, pose ta main sur nous. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Nous vivons dans un monde corrompu. Quelquefois, Seigneur, nous avons des luttes avec les choses que l'on entend, que l'on voit. Seigneur, nous avons des problèmes avec les modes, avec ce qui nous est imposé, Seigneur, quelquefois par les gens du monde. Et Seigneur, je veux te prier que tu nous donnes de trouver faveur, Seigneur, avec nos patrons, avec ceux qui nous instruisent. Seigneur, que tous ceux qui sont autour réalisent qu'il y a quelque chose de différent à notre sujet. L'amour de Dieu est en nous, la puissance de Jésus est en nous, l'œuvre de l'Esprit de Dieu agit en nous. Seigneur, ton Saint-Esprit est vivant en nous. Seigneur, nous avons faim et soif de l'eau vive. Seigneur, déverse sur nous de ton esprit. C'est ma prière aujourd'hui. Seigneur, bénis toute l'église réunie. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous de veiller et de prier. Donne-nous d'être purs devant toi, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus, par ton esprit. Visite-nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Chacun d'entre nous, nous prions. Dites au Seigneur les paroles ou les mots ou les désirs ou la prière que vous voulez faire au Seigneur concernant ce message en particulier. Porter du fruit, être greffé en Jésus-Christ, être un sarment qui porte du fruit. Si vous êtes en train d'être émondé, peut-être le Seigneur est en train de tailler quelque chose dans votre vie. Dites, Seigneur, donne-moi de porter du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur, si je souffre ici pour quelque chose, Seigneur, je veux porter le fruit de la foi. Seigneur, je veux porter la sagesse, l'amour, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, Seigneur. Seigneur, je veux porter un fruit de sainteté. Seigneur Jésus, je veux. Aide-moi, Seigneur, dans ma faiblesse. Aide-moi, Seigneur, dans mes manquements. Seigneur, fortifie-moi par ton esprit. Encourage-moi par ta parole, Seigneur. Aide-moi ce soir au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel Jésus. Alléluia. Louons-le ensemble encore, Église. Bénissons-le. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Père Éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.
De tout notre cœur, acclamons-le et adorons-le encore une fois. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus.